Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 29 septembre 2014, dernier Canu Info du mois de septembre, avec Michel et Jean-Pierre dans les studios et Robert en duplex. Nous aborderons tout d'abord la rubrique internationale en faisant un rapide retour sur un événement du milieu de la semaine dernière, Robert.
Et sur la séance du tribunal Russell pour la Palestine, et donc qui s'est réuni pour écouter un certain nombre d'experts, de militants, de témoins, de victimes de ce qui s'est passé sur l'affrontement entre Israël et Gaza. Ça s'est passé donc à Bruxelles, cette séance de ce tribunal, dont on se rappellera qu'il a été créé sous le patronage de Stéphane Hessel. Et les témoignages sont, comme ça a pu être dit à travers la rubrique des événementiels, malgré un certain blackout, le rapport qui en est sorti de ces deux jours de rencontre est accablant pour Israël et conduirait directement à des inculpations pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Ce rapport, alors évidemment, c'est comme tous les rapports d'une structure qui est peuplée de militants bénévoles et qui, malheureusement, ne peut compter que sur ses propres forces. Et elle est allée, étant à Bruxelles, elle est allée directement au Parlement européen, grâce à l'intercession de la gauche unitaire européenne, donc la gauche de gauche au Parlement européen. Les députés européens ont pu entendre des extraits ainsi qu'un compte-rendu de ce rapport. Ce rapport, certains ont dit, les plus engagés, on dit, bien, faut pas que ça reste lettre morte. Et notamment parmi les militants et les juristes qui ont participé à ce rapport, eh bien, ils n'étaient pas trop rassurés sur l'efficacité qui pourrait avoir ce rapport. Et il suffira que ce rapport soit pris en compte partout, par les parlements, mais surtout par les peuples à travers l'Europe directement impliqués, mais aussi à travers la planète. Et ce rapport devrait être normalement lu aux Nations Unies. Mais une experte a déclaré, eh bien, on a bien vu, à part quelques dizaines de députés, donc une minorité, on a bien vu que le Parlement européen, il fait comme la Commission européenne, il pratique la politique de l'autruche, et au point que, selon les juristes, eh bien, on pourrait bien, globalement, mis à part donc ces quelques minorités, inculper le Parlement européen pour complicité de massacre. Voilà, et comme on l'a dit, possible, il faut espérer que ce rapport n'en restera pas là où il en est aujourd'hui.
Voilà un premier sujet donc pour ce Canu Info du 29 septembre. Un autre sujet, Michel, tu as envie qu'on porte sur quoi ?
En complément de ce que vient de dire Robert, la position de Mahmoud Abbas qui, ce week-end, à l'ONU, a demandé à ce que la communauté internationale donc, condamne l'opération bordure protectrice d'Israël, donc cet été, qui a fait plus de 2000 morts. Et dans le même temps, la difficulté, sachant qu'au bout donc, de cette résolution, il y a le veto des États-Unis. Et le paradoxe un peu de la France qui a, en croire donc, la diplomatie palestinienne, soutiendrait donc, Abbas dans cette démarche, mais dans le même temps, On voit bien que la position de la France qui a été celle de Netanyahou finalement, hein, totalement calquée sur la politique étrangère israélienne. Le jour venu du vote, il est à craindre que, au mieux, donc la France s'abstienne ou qu'elle appose elle aussi son veto. Et à donner aussi cette information qui est celle de l'Union européenne et la France s'apprête de nouveau, une fois de plus, donc à refinancer la construction de ce que les Israéliens ont détruit cet été, pour la troisième fois.
Oui, on n'est pas sûr que ce soit fini pour autant, hein, en plus. Voilà, rubrique internationale. Bon, on va aborder différents sujets. Il y a forcément dans l'actualité du jour l'Afghanistan avec Ashraf Ghani qui est entré en fonction, on va dire, le nouveau président afghan, élu, paraît-il, avec 5%, 55% des voix. Un homme, si ce n'est du sérail, un homme des Américains, il remplace un homme des Américains. D'ailleurs, la première décision, nous dit-on, qu'il va être amené à prendre, c'est la reconduction de la présence américaine des 1000 soldats environ sur le sol afghan pour les années à venir, quoi. Il est curieux ce type, parce qu'il disait il y a quelque temps, être président en Afghanistan, c'est le travail le moins enviable du monde. Et pourtant, il a choisi de le faire. Lui qui est afghan peut-être d'origine, mais qui ne l'a pas toujours été, puisqu'au fil de sa carrière, il est parti aux États-Unis où il s'est fait nationaliser et il est redevenu afghan que depuis 2001, quoi, après avoir été des technocrates de la Banque mondiale. Donc on reste entre gens d'un certain monde au niveau des dirigeants afghans dans un pays où on sait que la pression talibane n'est pas retombée et où les luttes entre les différentes factions dans le pays dominent finalement la vie politique plus que le gouvernement de Kaboul. Enfin, est-ce tout ça dans un contexte de corruption généralisée ? On va voir ce qui peut en advenir, quoi.
C'est bien de rappeler cet état, c'est-à-dire que Ashraf Ghani donc, est de nouveau citoyen afghan depuis 2001, donc depuis la fameuse affaire des attentats du 11 septembre. Hein. Les États-Unis avaient besoin donc de cadres sur lesquels ils pouvaient s'appuyer, hein, que ce soit Zalmay Khalilzad, que ce soit la famille des Karzai, hein, ou que ce soit Ghani, donc de grandes familles de dignitaires de l'ethnie Pashtoun, parce qu'il fallait à tout prix qu'on s'appuie sur un membre donc de l'ethnie Pashtoun. Donc on a misé sur les Karzai. Il semblerait que la créature de Frankenstein s'est un peu émancipée et sortie du labo de l'oncle Sam et donc refuse de revenir au bercail. Donc on en sort à nouveau. Ashraf Ghani, c'est toute la difficulté aujourd'hui de nous faire gober à cette démocratie afghane quand on voit que de fait les gens qui sont choisis répondent avant tout donc à la politique de l'occupant. Il faut dire les choses comme elles sont. Il aurait été intéressant d'appeler un référendum pour savoir si les Afghans qui ont subi dont l'occupation américaine ces 12 dernières années étaient pour la reconduite donc des troupes américaines sur leur territoire. Karzai ne voulait pas signer cet accord donc de sécurité avec les États-Unis. On a attendu les élections donc pour forcer la main au nouveau candidat. Et ça tombait bien que ce soit Abdullah ou que ce soit Ghani, les deux étaient donc disposés à signer cet accord. Et c'est reparti comme si de rien n'était. Enfin, tous ceux qu'on a dénoncés donc, comme politiques et qui, de la part des Occidentaux en Afghanistan, va se perpétuer sous Ghani. La corruption est toujours là, tu l'évoquais. L'insurrection, on peut mettre ça sur le dos des islamistes, talibans, etc. Mais on peut aussi comprendre qu'il y a une forme de défi de certains dignitaires des provinces reculées par rapport à ce personnage qui est Ashraf Ghani, qu'ils ne connaissent pas, puisqu'il il a été parachuté. Donc il faut comprendre un peu que la société afghane ne va pas réussir à se ressouder derrière Ashraf Ghani, qui est l'homme des États-Unis.
Voilà, sur ce sujet. L'autre sujet, bien sûr, c'est la continuation de l'action militaire entre la Syrie, l'Irak, la Turquie. Beaucoup et peu à dire à la fois. Alors, factuellement, les bombardements continuent, les Anglais, les Français s'y sont mis, les raffineries ont trinqué. Maintenant, c'est les installations de gaz qui trinquent, plutôt à la limite de la frontière avec la Syrie, et plutôt en Syrie que dehors. Donc des djihadistes radicaux qui sont un petit peu contraints de se fondre dans la population, puisque chaque fois qu'ils apparaissent avec des convois militaires, les avions ne tardent pas à rappliquer et à les détruire. Pour autant, la guerre en question n'est pas gagnée, et tant qu'au sol, il n'y aura pas des fantassins pour aller occuper le terrain, qu'ils soient kurdes ou irakiens, voire syriens, puisque les Syriens n'apprécient pas non plus cette présence militaire sur leur territoire. La Turquie, quant à elle, elle est dans une drôle de position. On sait qu'elle est ambiguë et par rapport aux djihadistes, elle se tâte, elle ne sait pas si elle va vraiment faire partie de la coalition, alors que simultanément, elle protège à la fois les réfugiés et puis aussi les radicaux de Daesh qu'ils font souvent transiter par leur territoire. Là-dessus, il faut encore dire un mot d'Al-Nostra, ce djihad syrien qui voit d'un mauvais œil la concurrence de Daesh et qui souhaiterait la chute de Bachar, mais pas au profit des amis venus du Nord, quoi. Bref, une situation bien compliquée. D'ailleurs, il semblerait qu'Al-Nostra perd une partie de ses combattants qui vont rejoindre Daesh dans le contexte actuel, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore d'autre, Michel ?
Oh, on peut dire beaucoup de choses. On pourrait chaque semaine voir un peu l'évolution sur le terrain, les bombardements donc de la coalition, avant tout des États-Unis, hein, et de la coalition qu'ils ont mis en place pour juste masquer le fait que c'est une politique unilatérale des États-Unis contre Daesh, hein, dont les buts politiques sont on ne peut plus obscurs, hein, c'est bien de vouloir bombarder. Certains des supplétifs des États-Unis comme les Britanniques nous promettent que la lutte contre Daesh va être longue, 5 ans à 10 ans, bien. On est vraiment dans la guerre perpétuelle au terrorisme qui a été théorisée par les proches de George Bush, par les néoconservateurs. Bien. Il n'y a pas de but politique, mis à part effectivement demander l'adhésion de la communauté dite internationale derrière ce programme d'éradication de cet international islamiste, l'État islamique, Daesh, appelons-le comme on veut. Mais de fait, on ne voit pas l'ébauche donc d'un plan de stabilisation pour toute cette région. Et on a vu dans les conflits précédents qu'à chaque fois qu'on voulait soi-disant amener la démocratie, soi-disant se défaire d'un dictateur, on l'a provoqué donc en cascade, donc catastrophe sur catastrophe. Aujourd'hui, donc, l'islamisme qu'on veut combattre, hein, il s'étire de la Mauritanie jusqu'au Pakistan et au-delà. On voit bien qu'à Saïef, aux Philippines, qui a prêté allégeance à l'État islamique. Enfin, on nous en emmené là aussi une fois de plus dans une vision très très étriquée. Et dans un choc civilisationnel, non pas que l'islamisme n'existe pas, mais c'est que on omet de nous présenter les faits, à savoir, et on l'a dit à cette antenne plus d'une fois, c'est que cet État islamique n'aurait pas pu voir le jour sans les services secrets occidentaux, sans les monarchies du Golfe, qui sont aujourd'hui dans la coalition. Donc, vouloir nous vendre donc ces fadaises de lutte sur le long terme contre l'État islamique, oui, si c'est pour maintenir l'opinion publique dans un état de peur permanent et de vouloir nous faire passer d'autres plans hein, sur la tête, oui. Mais là, on voit bien que les limites, c'est le flou le plus total. On l'a dit, la Turquie, un double jeu. S'engage-t-elle, ne s'engage-t-elle pas? Est-ce que les États-Unis utilisent leur base en Turquie pour bombarder Daesh? Est-ce que la Turquie a, de fait, prêté assistance ou a constitué ce qu'on appelle Daesh? Il semblerait que, pour partie, oui, il a librement ouvert ses frontières hein, pour que l'international islamiste puisse transiter de la Turquie vers la Syrie. Aujourd'hui, on s'en étonne. Et dans le même temps, personne ne dit, effectivement, on combat donc Daesh en Syrie, mais que fait-on avec le régime de Bachar al-Assad? On nous ramène une fois de plus l'armée syrienne libre, donc cette opposition qui existe uniquement que sur le papier pour combattre et le régime et al-Nusra, hein, quoique al-Nusra serait aussi dans l'opposition à Bachar al-Assad. Donc enfin, les choses sont tout sauf claires sur ce dossier. Tu parlais de bombardement tout à l'heure, il manque les fantassins. On ne veut pas aller sur place, on forme donc les fantassins. Les fantassins, principalement, hein, jusqu'à présent, sont kurdes. On parie sur les Kurdes, les Allemands qui s'apprêtent donc à distribuer pour 70 millions d'euros donc, de fournitures militaires, les Français qui sont déjà actifs sur place et les centaines de conseillers militaires aussi américains qui formeraient aussi principalement donc, les Kurdes. Et ceci, bien sûr, est très très mal vu hein, par les voisins, très mal vu par la Turquie, très mal vu par l'Iran, très mal vu donc par ses affidés, à savoir le régime chiite à Bagdad, qui ne comprend pas que les alliés ne financent pas la nouvelle armée irakienne, l'armée nationale, mais préfèrent donc financer une des entités donc du peuple irakien, à savoir les Kurdes dans le nord, la région d'Erbil.
Oui, Robert, tu voulais dire un mot là-dessus ?
Peut-être préciser qu'il semble que dès demain, mardi, le Parlement turc va être saisi par Erdogan d'une proposition d'entrer dans la coalition. Et enfin, ce qu'on entendait ce soir, c'est que cette proposition a de fortes chances d'être validée dès lors que c'est Erdogan qui le demande. Le deuxième point, c'est de constater que finalement les avions américains et peut-être français mais américains détruisent une partie de l'infrastructure syrienne en matière d'énergie, c'est-à-dire aussi bien les raffineries que ce qui concerne le gaz. Et ce faisant, il faut mesurer toute l'hypocrisie donc des Occidentaux qui donc en même temps continuent de détruire la Syrie de Bachar, tout en donnant l'impression qu'effectivement aujourd'hui ça n'est pas l'ennemi principal qu'ils doivent combattre. Et le troisième point, ça rejoint peut-être le point précédent, à savoir que si la Turquie, comme c'est probable, va entrer dans la coalition, alors sous quelle forme, on ne sait pas, ça lui permettrait de contrôler l'arrivée des combattants du PKK, qui jusqu'à présent étaient plus ou moins bloqués. C'est-à-dire, bon, c'est difficile, il y a des montagnes, le PKK, il peut passer une frontière, mais passer une frontière, quelques individus, c'est pas avec ça qu'ils peuvent beaucoup aider leurs frères de l'autre côté de la frontière. Mais par contre, si effectivement l'engagement de la Turquie est plus fort, eh bien le PKK aura beaucoup plus de facilité pour passer cette frontière et participer à la lutte contre le califat.
Voilà. Autre sujet, peut-être, on traverse un peu l'hémisphère, et on va voir à Hong Kong ce qui se déroule avec ces points curieux, pas si curieux. Ce qui est curieux, c'est que la sauce prend, on va dire, puisque des dizaines de milliers de manifestants étudiants sont dans la rue et que le gouvernement n'arrive pas bien à les contenir et à calmer la revendication. La revendication, c'est une opposition à une mainmise annoncée de la Chine sur les institutions relativement démocratiques et libérales de Hong Kong. Hong Kong, ancienne colonie anglaise, hein, depuis bientôt 20 ans, oui, et qui a été restituée donc à la Chine, moyennant un aménagement de régime qui soit pas le régime rigide des Chinois, mais qui cherche un peu en sous-main, ou pas toujours en sous-main, puisqu'il y a quand même 5 millions de Chinois qui résident à Hong Kong, à reprendre la main, et bien sûr des étudiants en particulier, et des opposants ne veulent pas voir cette évolution-là et se battent donc contre le pouvoir en place pour réclamer le maintien du système démocratique, disent-ils, existant à Hong Kong. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi des intérêts économiques là-dessous? C'est à voir et à analyser, quoi.
Tu disais, avant tout, c'est une génération donc, qui est jeune, hein, qui a manifesté. Alors, peut-être en sous-main, effectivement, il y a des gens qui tirent les ficelles. En tout cas, les Hongkongais ont compris que le régime chinois, donc, ces dernières années, a eu tendance à se durcir, hein, de plus en plus. Ils savent qu'ils sont quand même privilégiés, hein, au sein de cette Chine. Ils ont ce statut particulier, ils ont hérité de ce contexte un peu politique libéral. Mais dans le même temps, donc, ils craignent, alors à tort ou à raison, hein, l'avenir nous le dira, que le Pékin donc, fasse main basse totale, donc, surtout pas au niveau économique, parce que Pékin laisse faire, hein, mais au niveau donc, politique et au niveau de la communication, que Pékin donc, encadre totalement donc, Hong Kong.
Alors, Robert, là-dessus ou sur un autre sujet, tu veux intervenir?
Je veux parler des traités en cours de négociation entre l'Union européenne et puis, d'une part, le Canada et d'autre part, les États-Unis. Alors, en ce qui concerne le Canada, c'est pratiquement fait, hélas, puisque au milieu de la semaine dernière, un premier accord semble avoir été signé. Alors, on s'étonne, on va dire, mais pourquoi, alors que l'on se mobilise très fortement pour dénoncer la négociation entre l'Union européenne et les États-Unis, on est pratiquement peu intervenu pour dénoncer le traité entre l'Union européenne et le Canada, mais tout simplement parce que le Canada ne représente pas la même puissance économique et donc les mêmes dangers dans le cadre de l'application de ce traité. Il n'empêche que c'est une brèche qui s'est ouverte. Et cette brèche pourrait donc s'élargir violemment et dangereusement si effectivement la négociation entre l'Union européenne et les États-Unis aboutissait. Et déjà, depuis des mois et des mois, partout en Europe, mais notamment en France, et la mobilisation est forte pour dénoncer les perspectives désastreuses de ce traité, c'est-à-dire... schématiquement, en résumé, c'est-à-dire la marchandisation des services publics, c'est-à-dire santé, éducation, transport commun, etc., tout ça qui tomberait dans le lot commun de ce que les multinationales traitent. Et sur le plan du droit, le fait que ce serait un tribunal privé qui délibérerait sur les problèmes que les États soulèveraient devant le comportement des multinationales, et l'inverse aussi, mais on a bien compris que c'est les États qui ont des gros problèmes avec les multinationales, et que donc ce tribunal serait d'ordre privé, donc contrôlé par personne, donc finalement entre les mains des multinationales. Et simplement rappeler que il y aura une grande, en France et en Europe, c'est mais même dans d'autres pays d'ailleurs, et même peut-être aux États-Unis, peu nombreux, mais aux États-Unis, on sait aussi qu'en Grande-Bretagne, il y aura le 11 octobre, une journée de dénonciation, journée internationale de dénonciation de cette négociation que l'on sigle sous le nom de TAFTA, hein, ou bien du grand marché transatlantique, 11 octobre.
Voilà, l'Ukraine, on n'en parle plus beaucoup dans les médias, et pourtant la situation est loin d'être stabilisée. Il y aurait encore une dizaine de morts ces trois derniers jours, donc les combats, les affrontements continuent. La politique, pendant ce temps-là, doit œuvrer en sous-main, en arrière, mais sur le terrain, rien n'est réglé.
Ah ben non, sur le terrain, absolument rien. Ce qu'on a signé à Minsk il y a une semaine, c'est un cessez-le-feu, avec un engagement de chaque partie de créer une zone tampon, donc de reculer chacun de 15 km et créer la zone tampon. Donc sur le papier, ça peut être vrai sur la plupart des lignes de front, mais lorsque vous avez Donetsk qui est tenu par les insurgés, donc la république dite populaire de Donetsk, et donc pro-russe, hein, et que l'aéroport, lui, est tenu par les forces régulières de Kiev, il est clair que là, les insurgés ne peuvent pas reculer de 15 km, et encore moins ceux qui tiennent cette petite portion qui est l'aéroport. Donc c'est là, sur ce type de zone, hein, ce que les Russes et les Ukrainiens appellent les chaudrons, donc des petites, comment dirais-je, peaux comme taches de léopard, où la configuration, bien souvent, ce sont des troupes régulières de Kiev encerclées, hein, par les combattants pro-russes, que se font de manière sporadique, donc les différents combats. C'est pour ça que quasiment au quotidien, on dénombre des victimes.
Voilà, donc c'est un sujet sur lequel on reviendra forcément. On va dire quelques mots d'une curieuse gay parade à Belgrade qui a pu se tenir quand même. Ça faisait 3 ans qu'elle n'avait pas été possible. Alors là, c'est assez curieux puisqu'il y avait 1 millier de participants, nous dit-on, avec des représentants divers et variés de groupes d'influence, qui ont pu défiler sur 500 mètres, entourés par 5 fois plus de flics, et puis autour des manifestants qui, quand ils ont eu fini leur messe anti-gay pride, sont venus là pour essayer de jouer de la castagne. Finalement, il semble que ça s'est pas trop mal passé. La police a réussi à empêcher les affrontements physiques entre les deux groupes. Et voilà. Alors, pourquoi est-ce que le pouvoir serbe tenait tant à protéger ces manifestants plutôt que de continuer à interdire la manifestation, parce que visiblement il y a une hostilité, si ce n'est populaire, d'une partie de la population très virulente.
Vaste débat, la Gay Pride à Belgrade. Juste pour l'histoire, c'était la quatrième Gay Pride. La première a eu lieu, mais a pas eu le temps de finir. Bon, ça a fini en pugilat généralisé devant donc un semblant de force d'ordre à l'époque. Hein, ils n'étaient pas trop préparés, qui laissaient les séminaristes tabasser du PD pour jouer les choses comme ça. Voilà. Et donc les deux suivantes n'ont pas pu se tenir pour des raisons dites de sécurité. Bien souvent, il y a eu aussi beaucoup de mauvaise foi, donc de la part des autorités. Celle-ci, donc, elle a été tenue, mais comme tu le faisais remarquer, c'est tout sauf une gay pride. C'est un simulacre.
C'est un simulacre.
Car de confrontation, il n'y en a pas eu. pas une seule, hein, à ma connaissance. Le seul type d'escarmouche qui a eu lieu, c'est entre certains organes de presse qui étaient considérés par les manifestants anti-gay pride comme pro-LGBT, donc qui ont reçu des cocktails Molotov ou des fumigènes, mais de confrontation directe, il n'y en a pas eu. Et pour cause, c'est que depuis, ça a commencé dimanche, hein, mais dimanche, de bon matin, donc tout Belgrade était quadrillé, les gens n'avaient pas autorisation à sortir dans les rues pour que puisse s'organiser la Gay Pride. Alors, tu évoquais un millier de personnes. Oui, c'est un chiffre très large, on va dire quelques centaines. Et sur les quelques centaines, beaucoup de membres donc des différentes ambassades occidentales, dont les Français, les Américains, enfin, en gros la plupart des pays de l'Union européenne. Quelques rares membres du gouvernement, mais des deuxième ou troisième couteaux, les ministres en général ont trouvé le moyen de se faire excuser, qui avaient une réunion importante en Roumanie, l'autre en Suède, j'en passe, etc. On sent bien là effectivement le pourquoi de l'organisation de cette Gay Pride. Bah, tout bonnement parce que c'est dans le cahier des charges de l'Union européenne. La Serbie, si elle veut intégrer l'Union européenne, il y a, outre le fait de se mettre en conformité donc avec les critères convergents, hein, les fameux critères convergents concernant les différentes positions économiques, c'est aussi de reconnaître une partie du territoire serbe qui est aujourd'hui administrée par les Albanais, qui s'appelle le Kosovo, donc reconnaître l'indépendance du Kosovo par Belgrade, chose impossible, mais c'est aussi montrer qu'on est démocrate, qu'on est pour la protection des minorités et donc organiser la Gay Pride. Alors, c'est un sujet très très sensible chez les Serbes. Pas que l'homosexualité n'existe pas en Serbie, pas que les clubs homosexuels, des bars lesbiennes n'existent pas, mais c'est que dans la population, les gens vous diront, il y a autre chose à faire, il y a d'autres chats à fouetter, une population, 40% de la population au chômage, où on estime que le salaire médian est de l'ordre de 300 euros, où on estime qu'avec 300 euros, on a du mal à finir le mois, où le taux de natalité est d'1,3 enfants par femme. Donc il y a des problèmes sociétals qui sont beaucoup plus aigu aujourd'hui aux yeux des Serbes, et ils ne comprennent absolument pas l'entêtement, et ils voient ça effectivement comme une volonté de l'extérieur qui leur est imposée, donc de devoir se tenir, donc se défiler cette Gay Pride coûte que coûte.
Oui, ceci dit, il doit y avoir quand même en Serbie un mouvement gay, un mouvement lesbien, quoi.
Bien sûr, il y a un mouvement gay, un mouvement lesbien, mais chez les gens, donc ce mouvement gay et lesbien, c'est-à-dire en gros, les gens ne comprennent pas qu'on puisse l'affirmer comme ça, haut et fort. Ils n'y sont pas prêts. Là, je parle pour la majorité de la population.
C'est la religion orthodoxe qui met la pression, ou...
C'est plus que la religion, parce que les Serbes ne sont pas très religieux, c'est-à-dire que c'est plus un marqueur, comment dirais-je, culturel, hein, la religion orthodoxe, que de fait de gens pieux. Hein. Alors, il y a eu pour l'histoire, sur tout le parcours de la Gay Pride, il y a eu les popes qui sont passés derrière pour, chasser le démon du parcours, et ils ont béni tout le parcours derrière. Mais non, c'est la société qui a aussi un peu qui est libérale mais qui est conservatrice. Il y a un gouffre entre ce qui est permis de faire mais qui est qui est pas explicite, hein, mais ce qu'on tolère, et de fait, quoi, le fait de l'afficher. Donc les gens ne comprennent pas pourquoi il faut afficher effectivement son homosexualité. Et il faut comprendre effectivement que pour les organisations de gays et de lesbiennes, c'est une manière effectivement de faire sauter un verrou, hein, et donc pour que la société change. Mais je pense que malheureusement, les gens ne sont pas encore prêts dans leur ensemble. La société serbe n'est pas prête donc à accueillir de manière je vais pas dire pacifique, mais de pacifier donc une gay pride. C'est la raison pour laquelle chaque année ça vire au pugilat, et même si cette année ça a viré à la mascarade, hein, au simulacre, défiler dans les rues où tout le monde a les fenêtres fermées, où il n'y avait pas un seul passant dans les rues, où il y avait juste un cordon de journalistes accrédités, une centaine devant pour prendre nos photos, et des cordons de CRS de chaque côté, c'est pas vraiment l'image qu'on se fait effectivement de la fierté gay, quoi.
Voilà, alors un qui n'était pas à la Gay Pride, c'est Karadzic, puisqu'il est toujours en procès à La Haye, et que cette semaine commence le temps des plaidoiries, donc après 6 ans de constitution du dossier de ce procès. Quoi.
Oui, une mascarade. On peut dire choses comme elles sont, c'est une mascarade. On reproche aujourd'hui à Karadzic un peu tous les maux de la guerre en Bosnie-Herzégovine. Une fois de plus, le tribunal pénal de La Haye, qui a été mis en place, ne faut pas l'oublier, hein, par les États-Unis, 6 ans de procédure juste pour faire témoigner plus de 400 personnes à charge contre Karadzic. Karadzic qui a voulu faire témoigner les grands de ce monde, à commencer par Bill Clinton, par différents ministres qui étaient en poste en son temps dans les différentes chausseries occidentales, et personne n'est venu, et donc la Cour a estimé effectivement que les demandes de la défense n'étaient pas recevables. Donc pour l'histoire, le jugement, on sait à quoi s'en tenir, hein, ça sera donc une prison à vie pour Radovan Karadzic. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est que ce tribunal qui se voulait donc un exemple pour que les peuples de l'ancienne Yougoslavie, de l'ancienne Bosnie, je veux dire l'ancienne Bosnie parce qu'aujourd'hui la Bosnie est totalement désunie, se réconcilient, a été un fiasco total. Regardez à quoi ressemble la Bosnie-Herzégovine aujourd'hui. 2 entités officiellement. La République serbe de Bosnie, qui vit uniquement en prêtant allégeance donc à leurs responsables politiques serbes. Tous les citoyens serbes votent, quel que soit le parti politique, pour un homme politique, à condition qu'il soit serbe. La Fédération croato-musulmane, l'autre côté, qui n'a de nom que la Fédération, car ils vivent dos à dos, les Croates, n'ont pratiquement aucune espèce de contact donc avec les musulmans. Donc on a, voyez, après Dayton, hein, donc depuis 1995, une société totalement désunie, et la succession donc de procès qui ont lieu depuis n'a que renforcé donc les différents partis donc dans leur conviction, dans leur que jusqu'au boutisme. Si vous interrogez aujourd'hui la population serbe de Bosnie-Herzégovine, elle vous dira effectivement, elle qui vit très mal, hein, elle vous dira que cette guerre-là, donc ça a été l'aboutissement à un État qui n'est pas reconnu d'un point de vue droit international, qu'on appelle la République serbe, Republika Srpska, mais ils vous diront que ça a valu le coup. Et donc personne ne regrette, et c'est ça qui est assez dramatique. Vous trouverez les gens les plus disposés donc à rencontrer les uns les autres en dehors de Bosnie-Herzégovine. Je parle là des Croates, des Bosniaques et des Serbes. En général, pour pouvoir se parler, il faut sortir de cette entité qui est la Bosnie-Herzégovine pour vraiment avoir un vrai dialogue, un vrai échange. Aujourd'hui, donc, ce tribunal, donc, son résultat est proche de zéro concernant la soi-disant pédagogie auprès des différents peuples de Bosnie-Herzégovine.
Voilà, Robert, tu as encore rapidement un dernier sujet avant qu'on passe au national.
L'habileté de Rajoy, c'est le chef du gouvernement espagnol qui manie la carotte et le bâton. Alors la carotte, c'est son recul sur la loi anti-avortement, donc il la met pour l'instant à la poubelle. Et le bâton, eh bien, c'est la saisie de la Cour constitutionnelle espagnole pour empêcher coûte que coûte les gens de Catalogne d'organiser le 9 novembre leur référendum sur l'indépendance.
Oui, juste pour, on peut dire deux mots de référendum pour l'indépendance de l'Écosse, hein, on en a un peu parlé, maintenant qu'on a un peu plus d'éléments. Juste rappeler que finalement c'est le non qui l'a emporté à 55% des voix contre 45%, mais il nous arrive des chiffres un peu plus précis. Si les moins de 61 ans avaient voté, c'était le oui qui l'emportait. Et souvenez-vous qu'il y a encore début septembre, selon différents instituts de sondage, c'était le 8 qui était en passe de l'emporter. Branle-bas de combat dans les chancelleries occidentales, dans leur ensemble. Hein, il y a une pression forte qui a été faite sur les Écossais pour qu'ils rentrent dans le rang, qu'ils votent donc contre cette indépendance-là. La pression a été d'ordre médiatique, elle a été très très forte, et surtout il y a eu cette petite sentence de Cameron qui disait que au lendemain effectivement du référendum, si l'Écosse sortait, les pensions, donc les retraites, ne seraient plus versées par Londres. Il faut peut-être chercher le grand revirement entre les différents sondages début septembre et le résultat effectif après le 19 septembre, là, c'est-à-dire la peur, jouer sur la peur. Qu'est-ce qu'a promis Londres ? Un avenir meilleur ? Non. Et là, effectivement, là aussi, menacé du bâton. Et apparemment, ça a marché. Mais jusqu'à quand ? Cette génération donc d'anciens, hein, qui ont majoritairement voté pour le maintien dans le Royaume-Uni, va disparaître petit à petit et va de nouveau se reposer donc cette question de l'indépendance pour la jeune génération écossaise.
Voilà, allez, courte pause musicale avec la musique de Gérard Mémon et on se retrouve pour la rubrique nationale. Petit clin d'œil, hommage à Gérard Mémon et à Françoise qui prennent une demi-retraite. Ils n'arrêteront pas de créer, mais ils vont quitter Villeurbanne bientôt et leurs fonctions associées à leur présence à Villeurbanne, que ce soit pour la musique ou pour le théâtre. C'était un morceau de Gérard Mémon qu'il interprétait avec Cohen. Il s'agissait de Martha. Rubrique nationale de ce Canu Info du 29 septembre 2014, élection sénatoriale, on ne va pas y passer des heures, mais on va quand même dire que tout le monde a gagné et qu'on note une chose extrêmement intéressante, à savoir que les politicards sont vraiment à l'œuvre. Et comment voulez-vous ne pas écœurer la population d'aller voter ? Les mêmes gens, le Sénat, qui ont voté le non-cumul des mandats, une grande partie des candidats réélus sont des cumulards. Alors à quoi on joue là, hein ? Et en tête de ce genre d'individus, Colomb et Guy Minot, le maire de Bron, qui tous deux cumulent la fonction de maire et de sénateur. Alors on a le FN. Ah, le FN, ça change tout. Hein. Eux, ils vont faire la politique autrement et c'est des purs. Hein. Oui, et ben les deux malheureux élus qu'ils ont réussi à infiltrer sont aussi des cumulards, alors que le programme du FN déclare pompeusement que le cumul des mandats ne doit pas être pratiqué. Eh bien voilà, c'est qu'ils sont vraiment pires que les autres et comme les autres aussi à un certain point. Ceci étant dit, bon, ben, comme prévu, la droite reporte la majorité au Sénat. C'est surtout d'ailleurs les centristes, puisque l'UMP, elle toute seule, n'aura pas la majorité. Les centristes qui ont pas mal progressé. Et puis, pour dire un mot de Lyon aussi, la politique très peu socialiste de Colomb qui a refusé de s'allier sur une liste commune avec le Front de Gauche a fait que Passy, qui aurait dû être élu, il lui a manqué 4 voix pour le Front de Gauche, Passy de Givor, donc n'est pas élu et il n'y a que des sénateurs socialistes lyonnais. Mais Colomb est content puisque lui est repassé et que c'est son énième mandat de cumulard qu'il va retrouver là. Voilà, Robert, je te laisse commenter ou passer à autre chose.
J'avais repris comme ça par curiosité la proposition du programme du Front de Gauche lors de la campagne présidentielle de 2012. Et alors, voilà ce que proposait le Front de Gauche. Nous proposons la suppression du Sénat ou sa réforme profonde pour devenir une chambre relais des collectivités locales et des initiatives citoyennes. Bon, avec ça, vous me direz, bon, on n'a pas forcément beaucoup avancé, mais l'idée que, effectivement, le Sénat, quelle est sa réalité et son utilité, elle est au cœur de la question actuellement. Alors, sur le plan effectivement du jeu politicien, c'est évident, et tu l'as souligné, la montée en puissance des centristes va faire que tout en étant calés avec la droite, ils vont quand même jouer entre les deux blocs, bloc PS et bloc UMP, et peut-être effectivement poser un certain nombre de problèmes à l'UMP. Sans pour autant proposer naturellement une révolution. Et dans les Alpes de Haute-Provence 04, on a eu l'exemple type où effectivement c'est un socialiste qui a conservé le poste de sénateur, donc pour le PS, alors qu'il était minoritaire, mais il s'est retrouvé dans une triangulaire, et la triangulaire, et bien, il y avait donc le socialiste, il y avait l'UMP, et il y avait, alors il n'est pas vraiment centriste, il n'est pas affilié au centrisme, mais tout le monde le prend pour un centriste, et donc la division de la droite a fait passer le candidat du PSC. Et il est probable qu'on va voir ce type de comportement politique, politicien, ça sera politique si les projets sont intéressants, ça sera politicien si c'est simplement pour mener des petites guéguerres sans conséquence et confiné dans le formalisme. Voilà ce que je voulais ajouter.
Voilà. Allez, on passe à des sujets sociaux.
Des sujets sociaux, l'annonce que la sécurité sociale, c'est une catastrophe, le trou s'est approfondi, et naturellement, sans plus attendre, déjà, la ministre Touraine a annoncé que les familles allaient en prendre un coup derrière les oreilles, ainsi que les retraités, et puis sans doute beaucoup d'autres.
Ouais. Et puis on n'oubliera pas que pour
un avenir gay qui se présente. D'ailleurs, les retraités, mais c'était pas lié, directement, mais demain les retraités qui font une mobilisation générale avec presque tous les syndicats, sauf la CFDT, vont dénoncer cette politique d'austérité que conteste, en utilisant la méthode Coué, que conteste le Premier ministre Manuel Valls. Et toujours en social, on a la mauvaise nouvelle qui était attendue, qu'effectivement, Intermarché et Jean Rosé, qui est une de ses filiales, va peut-être reprendre GAD, donc cet établissement d'abattage de porcs, 23 000 par semaine, hein, c'est d'ailleurs presque écœurant d'entendre ce genre de chiffres, mais bon, il faudrait s'arrêter de manger de la viande, par exemple. Le tribunal de commerce de Rennes, le 13 octobre, va sans doute entériner la proposition d'Intermarché pour une reprise de 2/3 seulement des 800 salariés de GAD. 250 à 300 vont disparaître. Ce sera sans doute la proposition de Jean Rosé. Alors, on nous dit que, comme d'habitude, on prévoit déjà des reclassements ici et là, que le groupe coopératif CECAB, je crois qu'il s'appelle comme ça, oui, CECAB, va vraiment prendre soin de tous les licenciés. Voilà. Sinon, on a aussi les fanfaronnades du président du MEDEF, Gattaz, qui dit, oui, le million d'emplois, j'y pense, mais il faut pour ça que démolir un peu davantage le code du travail et puis un certain nombre d'acquis sociaux des travailleurs depuis plus d'un demi-siècle.
Oui, je voulais revenir un instant sur la Sécu avec ce fameux trou. Bon, on nous annonce des tas de mesures restrictives, mais un autre aspect de la réalité dont on ne nous parle pas, c'est qu'il y a un certain nombre d'employeurs félons qui font qu'il y a un déficit de cotisation de 10 à 20 milliards qui ne sont pas payés. Alors on se demande bien pourquoi on ne commence pas par aller chercher là où l'argent est dû et devrait rentrer, avant de vouloir restreindre les prestations qui sont associées à ces cotisations qui devraient rentrer. Voilà, d'autres sujets, qu'est-ce qu'on voulait dire aussi? Oui, ben d'ailleurs, en réaction à ces annonces-là, il y a des manifestations le 30 septembre pour les retraites à Paris, mais aussi à Lyon, 14h30, démarrage Place Lyautey en direction du siège du PS à l'appel de CGT Solidaire, FSU, CNL. Pendant qu'on est dans les manifs, on dira aussi un mot de l'OL Land qui, le 1er octobre à 10h, les opposants à l'occupation illégale de terrain appellent à manifester, rendez-vous à l'église de Charpieu. Et puis je voulais aussi dans le social donner les nouvelles règles des ACEDIC qui peuvent intéresser du monde au 1er octobre, c'est après-demain. Hein. On va pouvoir, en matière d'emploi, de cumul emploi-travail, il n'y aura plus de limites sauf à ne pas dépasser l'ancien salaire avant le licenciement. Et puis il y a les droits rechargeables qui vont être mis en place d'une manière plus satisfaisante. On garde les droits acquis précédemment quand on reprend un travail, une activité. Donc, s'il se trouve que ce travail ne dure pas et qu'on retombe au chômage, on récupère les droits qu'on avait avant cette éventuelle, par exemple, courte reprise de travail. Et puis, s'il y a plusieurs employeurs, une prise en compte de la somme des emplois et de la somme des durées de temps de travail pour le calcul des indemnités. Tout ça, c'est la convention, elle n'est pas géniale, mais signée en mai 14 par CFDT, FO, CFTC, et refusée de signature par la CGT et la CGC. Voilà, Robert, tu avais d'autres sujets ?
Toujours sur le social. Le ministre du Travail, Rebsamen, est très content de lui, puisque il prétend que la promesse numéro 34, très précise, du programme de François Hollande est maintenant rempli, puisque 150 000 emplois d'avenir ont été créés. Emplois d'avenir, alors c'est pour les jeunes, souvent des sans véritable qualification. Et qui plus est, dit-il, la moitié de ces 150 000 postes de travail pourvus sont des postes CDI ou des CDD de 3 ans. Donc, il considère que c'est en ce qui concerne une réussite, prétend-il. Hein. Et ce qu'il ajoute en plus, c'est les 9 dixièmes de ces 150 000 emplois sont à temps plein. Donc voilà, un ministre très content, très satisfait de lui, le même qui, il y a quelques jours, déclarait que il fallait peut-être revoir pas mal de choses à la baisse, comme par exemple le SMIC ou des choses comme ça. Bon, c'était le même homme qui aujourd'hui se félicite de ses propres résultats, alors qu'il faut considérer que depuis l'arrivée de Hollande au pouvoir, il y a 500 000 chômeurs de plus. Alors donc 500 000, il en a sauvé 150, sinon il y en aurait donc 650 000 aujourd'hui, si Reb Sahamen n'avait pas été là.
Voilà, on dira un mot aussi d'Air France, où le conflit a fini par s'arrêter, un conflit plein d'ambiguïté. Les pilotes n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, tout au plus la direction a annoncé qu'elle ne mettrait pas en place Transavia Europe, mais qu'elle mettrait en place Transavia France, avec des contrats différenciés pour les pilotes, ce qu'ils ne voulaient pas. Mais on peut penser que les négociations ne sont pas finies. En tous les cas, ce rapport de force qui a duré une quinzaine de jours, de salariés certes privilégiés, mais défendant quand même des droits au travail qui sont mis en cause partout, même sur des moins privilégiés qu'eux, avait aussi son intérêt. Voilà, tu avais d'autres sujets, Robert, ou on reste là pour ce journal ?
Il y en aurait bien d'autres, mais on va les garder pour la semaine prochaine ou pour nos camarades des Canu Info des prochains jours.
Voilà, et bien ce Canu Info se termine. Je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de Radio Canu. Ne quittez pas l'antenne, il sera rediffusé demain matin comme à notre habitude à 8h. On a des petits soucis avec le site internet, je crois, pour le moment, mais dès qu'il sera remis en état, on pourra vous le proposer aussi sous cette forme-là. Bonsoir.